Aujourd'hui, cinquième et dernier tableau, puisqu'on va débriefer le tableau de simplhomme pour les JO, et on va notamment s'attarder sur le parcours à venir de notre Français Brice Leverdez. Bienvenue dans un nouvel épisode de
21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational.
I'm the bad guy.
Take that.
Et je suis comme cet épisode et pour cet épisode et comme d'habitude avec Benoît. Salut Benoît.
Salut Ewan, salut Marius.
Et aujourd'hui, contrairement à d'habitude, on n'est pas que deux puisqu'on accueille une troisième personne pour parler bad avec nous, c'est Marius. Salut Marius.
Salut Ewan, salut Benoît.
Merci d'être avec nous, ça nous fait très plaisir. On va attaquer directement ce tableau de simplhomme. Je rappelle rapidement que il y a 14 poules avec à chaque fois une tête de série et que donc les matchs auront lieu, les poules auront lieu du 24 juillet au 27, au 28 même, ça se finira le soir du 28, avec ensuite les quarts de finale, les 16e de finale, pardon, les 8e de finale, je vais y arriver, le 29, les quarts de finale le 31, et ensuite les demi le 1er août et les finales tout en dernier le 2 août. On va commencer donc, je l'ai dit, par le parcours de à venir de Brice Leverdez, qui est logiquement le seul Français engagé. On a cru un moment qu'il serait tête de série, puisqu'il était le 16e mieux classé. Finalement non, puisqu'il n'y a que 14 poules. Et donc il allait forcément jouer une tête de série en poule. Et ça n'a pas manqué, puisqu'il a tiré le Malaisien Lizidia. Et donc Lizidia qui est 8e mondial et l'Ukrainien Pochtarov. Je vais vous poser d'abord une question, je vais commencer par exemple par toi Benoît. Est-ce que pour toi Lizidia c'est un des pires tirages possibles pour Brice Leverdez ou alors un des meilleurs? Qu'est-ce que t'en penses?
J'ai hâte d'entendre Marius, mais je vais juste en dire une phrase ou deux. Pour moi Lizidia aujourd'hui c'est le pire tirage parce qu'il y a un an ça aurait peut-être pas été le cas. Mais aujourd'hui, il a quand même gagné le All England cette année. Et clairement, c'est un joueur qui monte en puissance. Donc voilà, pour pas trop en dire, Marius, j'aimerais bien avoir ton avis sur le tirage Lizidia.
Moi, je dirais que c'est un pire tirage. Après, c'est un tirage qui est forcément pas facile. Mais à partir du moment où on n'est pas tête de série, forcément, on tape du lourd. Après, je pense que ça aurait pu être pire. Sachant que Brice a déjà battu Lizidia. Alors, c'était il y a 2 ans, il me semble. Mais par rapport, par exemple, je sais pas, à un Axelsen ou même à un Momota, je pense que pour lui, c'est mieux de jouer Lizidia, qui est encore, même s'il a gagné l'All England et qu'il a été impressionnant, un jeune joueur, on va dire. Donc, mais c'est sûr qu'il partira pas favori. Et puis, attention aussi à Pochtarov qui sera pas forcément une victoire acquise.
Ouais, tu fais bien de parler de Pochtarov parce que justement, avant le tirage, je disais à Benoît que ouais, il fallait se méfier. On savait pas encore que Brice Leverdez serait pas tête de série. Et je disais, il faut se méfier de tout le monde. Et ça peut être j'avais cité justement Pochtarov comme exemple, puisqu'il va arriver, il aura les crocs, forcément. Et ce sera pas, je suis d'accord avec toi, un match facile, puisqu'en plus, il me semble, si je me souviens bien, que Pochtarov l'a battu à Liévin. Benoît, est-ce que je me trompe?
Je me souviens pas qu'il l'ait battu.
Je vais chercher ça, mais bref, en tout cas, ce sera pas forcément un match très 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 facile. Et après, je suis d'accord avec ce que disait Marius, c'est vrai qu'il aurait pu avoir pire quand tu vois le tableau. C'est vrai que prendre Momota par exemple ou Antonsen, c'est vrai que ça aurait été terminé encore plus vite. Mais même, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que Lizidia, même au niveau du style de jeu, un joueur aussi rapide, je suis pas sûr que ce soit ce qu'il faut à Brice Leverdez, en tout cas ce qui lui convient le mieux.
C'est vrai que Marius a pas tort, hein. Enfin, il a même plutôt raison. Il y a bien pire. C'est sûr que si tu prends Axelsen ou Momota dès les poules, tu sais que t'es quasiment condamné. Effectivement, contre Lizidia, on se dit qu'il y a une micro chance, mais quand je disais que c'était un des pires tirages, c'est surtout parce qu'il y a des poules où je me dis que il y a des poules, deux ou trois poules où il aurait pu éventuellement le faire. Effectivement, Lydie Gia, c'est un jeune joueur. J'ai un peu peur que ça aille vite, trop vite pour Brice Leverdez. C'est ma crainte. Et en plus de ça, vous l'avez bien dit, mais Poshtarov, c'est clairement... lui, il arrive en se disant, de toute façon, moi, j'ai rien à perdre. Au pire, je suis troisième. Au mieux, j'en tape un. Et par miracle, on sait jamais si je prends deux matchs. Donc, effectivement, ça va, c'est très, très loin d'être facile, même le match contre Poshtarov.
Après, c'est vrai qu'au niveau du style de jeu, c'est vrai que pour Leverdez, je pense que ça va être compliqué. Moi perso j'aurais bien aimé le voir contre dans la poule de Shiyuki. Pourquoi pas, on ne sait pas du tout où il en est, donc il tape deux adversaires vraiment quasi des inconnus. Et puis Leverdez n'est pas passé loin de le battre sur la dernière confrontation il me semble, donc ça aurait été sympa d'avoir un petit Shiyuki Leverdez en poule.
Ouais, je suis d'accord avec toi, Shiyuki ça va être l'inconnu, mais on en reparlera après parce qu'on va faire quasiment toutes les poules, mais c'est vrai que Shiyuki son niveau, l'inconnu comme beaucoup de Chinois d'ailleurs, mais lui encore pire parce que lui il a été blessé, donc on sait vraiment pas à quel niveau il va arriver. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ils se sont effectivement joués Leverdez et Poshtarov à Liévin au début de 2020, mais c'est Leverdez qui a gagné 21-17, 23-21, je me souviens d'un gros match, donc là je pense qu'on aura le même genre de match. Très très disputé, et je pense que Poshtarov c'est le gars qui va vraiment rien lâcher.
I'm the bad guy.
Take that.
On va du coup parler, avant de passer au tableau un peu final et ce qui attend les favoris, on va rapidement passer sur les poules, et vous allez me dire si vous avez quelque chose à ajouter à chaque fois. On va commencer par Kento Momota, qui était donc tête de série 1, qui prend Timothy Lam, l'américain, et le coréen Eo Kwang-hi. Bon, Momota, lui aussi, on ne sait pas trop à quel niveau il va arriver, et je pense que Kwang-hi, c'est pas forcément le meilleur tirage, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais il ne devrait pas connaître trop de problèmes en poule, en tout cas.
Ouais, Momota, effectivement, le coréen, c'est pas le tirage le plus simple maintenant. Enfin, quand t'es Kento Momota et que t'es prétendant au titre, de toute façon, j'ai envie de dire que tu dois pas t'arrêter à ce tirage. Alors oui, effectivement, ça aurait pu être plus simple. Maintenant, c'est aussi peut-être un match qui va lui permettre de rentrer bien dans le tournoi. Et c'est une chance, je pense, que d'autres n'auront pas. On en reparlera sur le simple dame, mais là, aujourd'hui aussi. Tous les joueurs n'auront pas cette chance d'avoir un top 30, top 40 mondial à affronter pour vraiment rentrer dans le tournoi de manière idéale. Je sais pas ce que tu en penses, Marius.
Oui, c'est vrai que ça peut être un petit test, on va dire. Après, voilà, je pense que c'est deux adversaires qui doivent battre facilement. Et personnellement, j'attends plus sur un quart de finale qui sera peut-être plus significatif de son niveau de jeu que sur ces deux matchs de poule.
Et je vais te poser la question, par exemple, Marius, est-ce que tu penses que Kento Momota, bon, je pense qu'intrinsèquement, c'est le meilleur joueur du tableau, c'est assez logique, mais est-ce que tu crois que la pression de ces JO où tout le monde l'attend et c'est à domicile, même en l'absence de public, est-ce que tu crois que ça peut éventuellement le freiner, ou alors tu penses qu'il va faire comme il a déjà fait par exemple au championnat du monde et un peu rouler sur tout le monde, au moins en poule et dans les premiers tours?
La pression, je dirais pas la pression. Après, je pense que peut-être le petit souci pour Momota, c'est le manque de repères, le manque de références cette année. Il a joué seulement 3 matchs. Donc, il a été battu en quart par Lizzie Gia All England, en plus en 2-7. Donc, voilà, au niveau de son niveau de jeu, on n'a pas forcément de grosses indications. Et voilà, après, par rapport, par exemple, à un Axel Sen, même s'il a l'avantage, on va dire, psychologique au niveau de l'état de forme, voilà, est-ce qu'il va vraiment être autant confiant qu'il a pu être par le passé quand il arrivait sur les grandes compétitions avec des séries de victoires impressionnantes? Peut-être pas. Donc plus sur la confiance que sur la pression, je dirais.
Et Benoît, je sais pas ce que t'en penses, on en avait parlé à deux, c'est vrai que ce All England qu'il fait, il revient au All England, donc pas vraiment le meilleur tournoi pour se remettre dedans, mais on a vu un Momota qui était, je dirais, physiquement affûté. Mais c'est ce que Marius disait, en fait, manque de repères et manque de confiance en lui aussi. C'était pas le meilleur Momota, quoi.
Ouais, clairement, je rejoins totalement Marius. Pour moi, ce sera plus une question de confiance et de rythme, de repères, que de pression. Parce qu'en plus de ça, au-delà du public absent, a priori, ce sera une quasi-bulle sanitaire. Donc, les joueurs seront même pas au contact de la population tous les jours. Et cette pression, finalement, je pense qu'il va un peu l'éviter. En revanche, ouais, comme l'England, on l'a pas vu sous son meilleur jour. Je pense que c'est plus ça qui à Tokyo peut être contraignant pour lui. Maintenant, faut pas oublier qu'il s'entraîne dans cette salle depuis des mois et que ça fera aussi un avantage de plus pour lui. Moi, perso, je suis pas inquiet sur le fait que Momota il tape 3 matchs par jour avec Tsuneyama et tous ses partenaires d'entraînement. Alors, je sais que c'est pas les mêmes conditions, mais je suis pas aussi inquiet que ce qu'on a pu voir au All England.
On va passer du coup à la poule C, puisqu'il n'y a pas de poule B avec ce format, on en reparlera après pour le tableau. La tête de série, c'est le Hongkongais Nge Kalong, 9e mondial, qui lui a un groupe, je pense, encore plus facile avec Cordon du Guatemala et Munoz du Mexique. Les gars, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut dire quelque chose Bah finalement, Nge Kalong, on aura un œil sur lui, puisque ce sera sûrement le... Il pourrait croiser la route de Momota, mais il ne devrait pas vraiment connaître de problème dans cette poule, comme beaucoup de têtes de série d'ailleurs.
Non, pareil, pas forcément. Je voulais parler de Cordon, qui va jouer ses 5e JO, mais c'était plus une anecdote que le fait de parler de cette poule, parce que je pense que ça va être assez tranquille pour Nge Kalong.
Ouais, bah je rejoins Benoît, à mon avis, ça va pas être... Voilà, il a deux adversaires largement à sa portée, et puis c'est quand même un... Je dirais une valeur sûre, c'est un second couteau qui répond souvent présent, donc personnellement je l'attends en quart de finale.
C'est vrai qu'il est très régulier, Nge Kalong. Benoît, je vais me tourner vers toi pour le groupe D, parce que la tête de série, c'est Pranet, l'Indien. Il affrontera Mark Kaliou des Pays-Bas et Misha Zilberman d'Israël, et je sais que tu vois, en tout cas tu nous disais avant, que tu verrais bien une victoire de Mark Kaliou contre Pranet.
Bah, clairement, c'est le tirage quand j'ai vu Pranet dans cette poule. J'ai croisé les doigts pour que Brice Leverdez y soit. Bon, malheureusement, c'est pas le cas, mais je pense quand même que c'était une des têtes de série les plus prenables. Moi, je l'ai trouvé très loin du compte ces derniers mois. Il suffit de regarder ses résultats. Mark Kaliou est un peu plus en forme, même si forcément le fait de pas les avoir vus jouer beaucoup, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Maintenant, même si Pranet mène 2-0 dans les confrontations, ouais, j'ai tendance à dire que Mark Kaliou est capable de le faire. Et en tout cas, lui, quand il va arriver sur ce match, il se dit que c'est peut-être une énorme chance de passer les poules au JO. Je sais pas, peut-être que vous voyez Pranet et je me trompe totalement, mais j'ai quand même un espoir pour Kaliou.
Je pense qu'il peut sortir de poule. Après, voilà. Pranet, ça reste, je trouve, un joueur assez consistant, on va dire. Mais Kaliou, à son meilleur niveau, peut facilement l'inquiéter. Et sur un match, ça peut passer. Hein.
Ouais, je suis assez d'accord avec Marius. Je trouve que Pranet, il est peut-être plus régulier qu'un Kidambi, par exemple, qui peut souffler le chaud et le froid sur quelques semaines. Mais c'est vrai que Mark Kaliou, il nous avait assez impressionnés. Il fait demi au All England, il me semble. Donc pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas, s'il arrive en forme. C'est vrai que Kaliou, quand il est en forme, avec son style de jeu toujours très particulier, il peut faire des miracles. Donc je pense qu'en tout cas c'est un très bon tirage. Tu l'as dit, Benoît, on priait pour que Brice Leverdez soit dans ce groupe. Finalement c'est Kaliou qui était quasiment au même niveau que lui qui a eu cette chance là donc en tout cas un match serré, je pense.
Kidambi qui n'est pas au jeu pour...
Oui, du coup, c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul simple homme indien. Et du coup, c'est vrai que Kidambi, qui pourtant, après les JO de Rio, avait connu une période assez incroyable, mais qui paye sa mauvaise forme depuis quasiment 2 ans.
Look at this, look at that.
On va passer au groupe E, avec là un favori à la victoire finale, Victor Axelsen, qui est deuxième mondial actuellement, qui affrontera 2 Européens, puisqu'il jouera le Finlandais Kalle Koljonen, et enfin l'Autrichien Luca Vraber. Enfin, d'abord Vraber et Koljonen ensuite. Marius, qu'est-ce que t'en penses? On sait que Axelsen, contre des Européens, à part contre éventuellement Antonsen, il a pas trop l'habitude de trembler. Est-ce que tu le vois peut-être douter, ou alors ça va être deux matchs vraiment très faciles pour le Danois?
Non, je pense qu'effectivement, contre les adversaires européens, il y a souvent des facilités. Là, je pense que ça peut le mettre en confiance. Alors, c'est des matchs, s'il les gagne, on ne peut pas en tirer des conclusions. Mais je pense que c'est peut-être mieux pour lui d'avoir une poule, voilà, avec deux adversaires contre lesquels il doit gagner et pour voilà, pas gaspiller trop d'énergie, puisque a priori il disputera un match de plus que Kento Momota s'il l'affronte en demi-finale.
Et Benoît, toi je sais que tu suis pas mal Cole Yonnen, qui a fait, on le rappelle, une médaille, une demi-finale au dernier championnat d'Europe, qui avait perdu contre Axelsen justement, mais qui avait battu Gamke. Est-ce que tu vois, je vais plutôt me concentrer sur Colonel que sur Vrabeur, Colonel, est-ce que tu le vois faire le même genre de semaine et éventuellement pouvoir sortir, pouvoir au moins inquiéter Victor Axelsen?
Non, je pense que les journaux finlandais n'auront pas l'occasion de le renommer le héros de Kiev comme il l'avait fait après les Europes. D'ailleurs, il avait perdu contre Axelsen. Non, je pense honnêtement, faut être réaliste. Je pense que Axelsen, ça va être deux matchs très tranquilles. Et même si Kolionen, il a fait quelques exploits à Kiev aux Europes, là, c'est une marche trop élevée pour lui, je pense.
Très bien. On en est au groupe F avec le joueur de Taipei, Wang Tsuwei, qui affrontera l'Irlandais Nathan Guyen et le Sri Lankais Niluka Karunaratne. Désolé pour la prononciation. Je vais commencer par toi cette fois, Benoît. Wang Tsuwei, je pense que sans lui faire un jeu, on peut dire que c'est pas une des meilleures têtes de série. Il jouera face à un joueur dont j'ai vraiment du mal à évaluer le niveau réel, Nathan Guyen, qui est 54e mondial, mais qui peut sortir des fois des matchs énormes. Il avait battu notamment Kidambi récemment. Est-ce que pour toi, Nathan Guyen, c'est un match piège pour Wang Tsuwei, ou alors il va l'écarter assez facilement?
Ouais, tu parlais de Kidambi qui souffle le chaud et le froid. Nathan Guyen, il souffle le chaud et le très très froid par moment. On l'a assez critiqué ici. Pour moi, aucun souci pour Wang Tsuwei. Et je te trouve un peu dur d'ailleurs avec Wang Tsuwei, parce que je trouve que c'est un joueur, je crois qu'il est 10e mondial aujourd'hui, mais c'est un joueur que je trouve de plus en plus constant et consistant. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je l'ai pas mis comme surprise dans le tableau final, mais honnêtement, ça me surprendrait pas que s'il passe les poules, et moi je le vois passer les poules, il passe le 8e de finale potentiellement.
Ouais, Marius, c'est quoi ton avis sur ces poules, mais surtout sur cette poule, mais surtout sur Wang Tsuwei et éventuellement Nathan Guyen? Est-ce que t'es plutôt d'accord avec Benoît?
Moi, je pense que Wang Tsuwei va sortir de cette poule. Après, je trouve que c'est une bonne expérience pour Nathan Guyen, parce qu'il est encore jeune et il va avoir un match costaud en poule au JO, donc ça peut être vraiment bénéfique pour lui. Après, Wang Tsuwei, c'est vrai que c'est un joueur assez imprévisible, hein. Il a battu pas mal de cadors, donc attention. Après, même s'il va probablement affronter Victor Axelsen, ouais, en 8e, je le vois pas passer, mais c'est un joueur quand même assez dangereux.
Oui, j'avais oublié qu'il affrontait Axelsen, autant pour moi, je me suis emballé sur il peut passer les 8e.
En parlant de joueur qui est un peu capable de tout, on en a un beau aussi dans la poule G avec Jonathan Christie, l'Indonésien, qui est actuellement 7e mondial, pardon. Il jouera avec Aram Mahmoud, qui alors représente, si j'ai bien compris, l'équipe des réfugiés, mais qui vient des Pays-Bas. Et il jouera aussi le joueur de Singapour, Lone Kinyu. Marius, je vais commencer par toi. Jonathan Christie, on sait qu'il est aussi capable de sortir des énormes perfs. Et il pourrait, par exemple, à son meilleur niveau, aller chercher une médaille. Mais il peut aussi être très décevant. Est-ce que tu crois que ça peut, il peut connaître des problèmes dans cette poule, ou alors ce sera une mise en route tranquille pour l'Indonésien?
Difficile à dire, parce que c'est vrai qu'il est capable du meilleur comme du pire. C'est un joueur qui a peu de références sur le début d'année 2021. Là, on l'a peu vu, et puis il a eu des défaites assez sévères. Donc, après, attention à l'Indonésien, c'est un Singapourien, pardon, qui il y a quelques années de ça avait fait parler de lui. Il a sorti quelques paires, donc je pense que c'est quand même un match piège à voir le niveau de Christie sur ses JO.
Ouais, t'as raison, Marius, hein, surtout que il me semble qu'ils se sont joués deux ou trois fois, et deux fois sur les trois matchs qu'il y a eu, ça fait un 3-7. Donc attention, Jonathan Christie, c'est pas le moment de se faire sortir en poule au JO. Surtout que moi perso, je sais pas, peut-être que vous aussi, mais depuis son titre au Jeux d'Asie qui est quand même exceptionnel. J'ai l'impression qu'on en attend beaucoup de lui, mais que ça ne vient pas pour l'instant.
Bah, c'est vrai qu'on va en parler après dans la poule J après, mais c'est vrai que Christy, bon, on le sait, il a été très fort très très tôt, et il avait l'air d'avoir un potentiel plus élevé que Ginting, par exemple, et ces derniers temps, je trouve que ça s'est un peu inversé. Mais le truc, c'est que Ginting est peut-être plus régulier, alors qu'un Christy, il peut te sortir un match exceptionnel où il peut faire trembler Momota, quoi.
Oh my goodness!
On va passer à la poule H, où on l'a déjà un peu mentionné, puisque c'est la poule de Shiyuki. Donc le joueur chinois qui affrontera Soren Opti de Suriname et Matthew Abella de Malte. Là, pour le coup, alors Marius l'a dit tout à l'heure, Shiyuki, c'est un joueur dont on ne connaît pas vraiment le niveau actuel, mais il a une poule, je pense que c'était difficile de faire plus facile, et je pense que c'est une mise en route optimale pour le chinois. Qu'est-ce que tu en penses, Marius ?
Voilà, clairement, c'est deux adversaires que je ne connais même pas, enfin, peut-être des noms comme ça, mais... Donc là, ça va être difficile de tirer des conclusions sur ces deux matchs de poule, mais il doit gagner ces deux matchs-là très facilement, et derrière, à voir sur le tableau final quel niveau de jeu il affiche, quoi.
Ouais, Opti est 274, je crois, et Abella au-delà de la 300e. Donc, effectivement, on va pas se mentir, hein, c'est pas des joueurs qu'on a vu jouer. Et même Shiyuki sur une jambe, je pense que, enfin, c'est pas leur faire offense, mais honnêtement, on saura pas à quel niveau il est, je pense, après ces deux matchs.
Ouais, Benoît, qu'est-ce que t'en penses de son niveau? Est-ce que bon, on l'a vu qu'il est, il a été blessé, il a été éloigné des terrains, il est revenu, on va dire, sur la pointe des pieds sans trop faire parler de lui. On en reparlera après pour le tableau final, mais est-ce que pour toi, il fait partie des 4-5 favoris?
Non, clairement pas. C'est un peu terrible, mais j'ai l'impression que sa blessure à la cheville, il l'a traîné. Après, forcément, il y a eu le Covid, mais je m'avance peut-être un peu, mais moi, perso, pour moi, c'est pas un des 4-5 favoris au titre cette année.
On y reviendra donc à la fin quand on parlera du tableau final. On va finir les poules, il en reste quelques-unes, notamment le groupe I, où on retrouve en tête de série le japonais Kenta Tsuneyama, qui sera avec Georges-Julien Paul de la Mauritanie, et Igor Coelho, le brésilien. Là encore, on a affaire à une tête de série qui fait pas partie des... on va dire des favoris au titre, même si Tsuneyama, ça reste très solide. Et là, Benoît, ça devrait être une mise en route assez tranquille pour lui.
Ouais, je pense aussi, attention à Igor Coelho quand même, même si, je pense que vous ne me contredirez pas, mais il n'a pas la forme qu'il a eue avant Rio en 2016. Il ne revient pas trop mal sur les dernières apparitions qu'il a faites. Maintenant, Tsuneyama, pareil, hein, on ne l'a pas vu jouer. Marius le disait tout à l'heure pour d'autres joueurs, mais... Je sais pas si on l'a vu au All England cette année, il me semble pas. Les Japonais, voilà, on les a pas vus beaucoup jouer, donc ça va être une incertitude, une des seules, je pense, parce que il sera favori de cette poule.
Ouais, Marius, t'es d'accord avec Benoît?
Pas grand chose à ajouter. C'est vrai que attention à Igor Coelho, même si là aussi au niveau de sa forme actuelle, on peut pas trop prédire, mais je vois quand même Tsuneyama sortir de cette poule sans trop d'encombre.
On enchaîne donc avec le groupe J, j'en ai parlé. Anthony Ginting, l'Indonésien, qui est actuellement 5e mondial, donc du sérieux, qui affrontera deux Européens, puisque le Hongrois Kraus et le Russe Sirant. Là, deux adversaires, bon, je pense notamment à Sirant, qui est, je pense, peut-être l'adversaire le plus sérieux. Deux styles de jeu qui, je pense, vont avoir du mal à réellement inquiéter Ginting. Je sais pas ce que t'en penses, Marius.
Oui, c'est vrai. Après, voilà, j'espère que pour Ginting, ça posera quand même pas de soucis de sortir facilement de ce groupe, parce que derrière, il est dans le bas du tableau, qui est extrêmement dense. Donc, voilà, s'il veut aller loin, il faut sortir facilement de cette poule et garder de l'énergie.
Ouais, Benoît, même avis.
Ouais, clairement, je pense que c'est une des poules les plus abordables pour une des têtes de série. Donc ouais, je rejoins totalement Marius. C'est pas le moment d'aller perdre un set ou de se retrouver à perdre de l'influx parce qu'on doit gagner un troisième set.
Un joueur aussi, une tête de série qui, qui me tarde de voir, c'est dans le groupe K, c'est le Thaïlandais Wang Charoen qui affrontera l'Allemand Kai Schaeffer et l'Anglais Toby Penty. Benoît, Wang Charoen, on l'a vu très très fort sur les derniers tournois où il a joué. Je trouve qu'il a un peu marqué le pas, mais ça, il devrait quand même pas avoir trop de problèmes pour se sortir de cette poule, j'ai l'impression.
Ouais, Wang Charoen, il a peiné à confirmer ses perfs de 2020 ou fin 2019 peut-être. Cette année, c'est compliqué. Maintenant, je sais, c'est un peu plus, les deux Européens qu'il a, par exemple, sont plus compliqués que ceux de la poule de Ginting. Même si Toby Penty, j'ai de gros doutes sur son état physique. Je pense que c'est deux matchs qui peuvent vraiment le mettre dans le tournoi, mais il faut pas qu'il se plante.
C'est deux adversaires européens qui sont quand même pas forcément évidents à jouer. Donc, puis Wang Charoen reste jeune, hein, il a 22 ans, je crois, donc il va être tout de suite dans le bain.
Ouais, bah, et voir Toby Penty, ça me fait penser qu'on peut saluer Ivan Capelli, hein, qui va être son supporter numéro 1 lors de ces jeux. On enchaîne avec le groupe L, et là, on a aussi du sérieux, puisqu'on a Anders Antonsen, le Danois, qui sera avec le Vietnamien Nguyen, et le joueur de l'Azerbaïdjan, Dui Kayo. Chenmin Nguyen, je sais pas ce que vous en pensez, je vais commencer par toi, Marius, c'est pas forcément... le tirage idéal quand t'es tête de série, mais avec les performances récentes de Anders Antonsen, il est quand même à l'abri, je pense, d'une mauvaise surprise.
Ouais, c'est ça. Ça peut être un match piège parce que déjà Antonsen, voilà, sur certains matchs, il a un peu de mal à démarrer ou il peut rapidement être mis en difficulté. Après, il a pas mal joué. Enfin, il a eu la chance de pas mal jouer en 2021, contrairement à beaucoup de joueurs asiatiques. Donc, voilà, j'espère pour Antonsen que ça posera pas de souci.
Ouais, ça, moi, je pense que ça posera aucun souci. Nguyen, on se fie beaucoup à son nom, mais il est vraiment, enfin, sans être méchant ou médisant, il est vraiment complètement cramé. Il suffit de voir ses résultats. Je crois qu'il était en Autriche récemment. Là, il passe un. Je sais même pas s'il gagne un match. Enfin, honnêtement, c'est plus le Nguyen qu'on avait il y a même 5-6 ans. Pour moi, aujourd'hui, je pense que même Dwight Kayo va le battre, en fait. Donc, je suis pas très inquiet pour Antonsen.
Ouais, c'est vrai que tu fais bien de le dire. Il a quand même 38 ans, donc c'est un joueur qu'on voit plus que certains autres. Mais pour Antonsen, ça devrait quand même être normalement plié.
I'm the bad guy.
Take that.
Je saute donc le groupe M, puisque c'est celui de Brice Leverdez dont on a déjà parlé, et il nous reste donc deux groupes, et notamment celui du champion olympique en titre, qui sera d'ailleurs le seul joueur, tout tableau confondu, à défendre son titre lors de ces jeux. C'est Chen Long, qui affrontera l'Espagnol Pablo Abian et l'Estonien Raoul Must. Benoît, deux adversaires européens largement à la hauteur de Chen Long, qui, pareil, lui, il n'a pas joué depuis longtemps. Mais ça devrait lui permettre de se mettre dans le bain avant un match déjà très compliqué, potentiellement en huitième. Donc il devra pas tarder à se mettre en route, Chen Long.
Ouais, je suis pas particulièrement inquiet pour Chen Long. Marius, tu nous diras juste après ce que t'en penses. Mais Abian et Must, il me semble qu'ils ont tous les deux joué 4 Jeux Olympiques. Enfin là, ça va être leur 4e JO. Donc c'est deux mecs qui sont là, qui sont plutôt jeunes déjà et qui vont venir, je pense, pour se régaler, et on sait qu'Abian est encore capable de belles choses, donc je pense qu'il va proposer, il va pas arriver face à Chen Long et prendre 5-5, il va défendre crânement sa chance, je pense. Maintenant, Chen Long, on l'a pas vu jouer depuis longtemps, certes, mais j'ai quand même peu de doutes sur le fait que Chen Long, c'est le moment ou jamais, en fait. Enfin, le reste de la saison, saison normale, on sait que, enfin, on l'a vu peu motivé par moment. Là, les JO, s'il est pas motivé là, je pense que derrière, ça va quand même sentir mauvais et pas loin de sentir la fin. Parce qu'en Chine, on sait que t'as beau être champion olympique, on va pas te laisser 10 ans pour revenir.
Ouais, Marius, t'es d'accord avec ça sur Chen Long?
Oui, je rejoins Benoît. C'est vrai que même si on l'a pas vu depuis un an et demi, je pense qu'il y a une préparation digne de ce nom, on va dire, pour les JO. Après, il a deux adversaires, voilà, qui sont largement à sa portée, et voilà, il doit les battre facilement. Et puis au niveau de la motivation, il y a quand même une médaille olympique à aller chercher. Il peut en avoir trois médailles olympiques au final. Donc voilà, ça serait très dommage de gaspiller de l'énergie dans ce groupe.
Et le dernier groupe, la tête de série 2, donc Shu Tianshen de Taipei, qui affrontera le Canadien Brian Yang et le Suédois Burstest. Là encore, pour Shu Tianshen, en plus, autant il y a certains joueurs où je me dis ils peuvent passer à côté, autant Marius Shu Tianshen, c'est un joueur qui est quand même très très constant et il perd rarement ce genre de match où il est favori, je trouve.
C'est ça, oui, après la poule... Là, c'est facile à mes yeux pour Shu Tianshen. Et surtout que derrière, voilà, il est tête de série 2, donc il passerait directement en quart de finale. Donc voilà, au niveau du tirage au sort, je pense qu'il est assez verni.
Benoît, t'es d'accord avec ça aussi ?
Ouais, je rejoins Marius. Brian Yang, pardon, il commence à dominer sur le continent américain, mais je pense qu'aujourd'hui, il est encore très très léger pour battre Shu Tianshen. Maintenant, dans 4 ans, on aura peut-être un autre débat quand une tête de série prendra Brian Yang. Mais oui, aujourd'hui, clairement, Shu Tianshen, c'est un tirage plutôt avantageux. Ouais.
Look at this, look at that.
Alors, on a fini toutes les poules. On va pas parler de tous les 8e probables et tous les matchs. Ensuite, ce que je veux préciser, c'est que Marius l'a dit, les têtes de série 1 et 2, donc Momota et Shu Tianshen, s'ils passent dans leur groupe, ce qui devrait arriver, joueront directement un quart, tandis que tous les autres joueront un huitième. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que donc dans la première moitié de tableau, on a Axelsen et Momota dans la première partie, et que du coup on a Anton Sen et Shu Tianshen dans une deuxième moitié. Benoît, je sais pas si tu as cette impression, mais moi j'ai l'impression en regardant le tableau qu'on a une première moitié de tableau moins équilibrée que la deuxième, où là ça devrait être plus de matchs serrés.
Ouais, on a aussi cette impression parce que je pense qu'il y a Axelsen et Momota déjà dans la même partie de tableau, mais on a aussi cette impression parce qu'en bas, tu as parlé d'Antonsen et Shu Tianshen, mais il y a quand même le champion olympique en titre, Chen Long, qui est dans cette partie de tableau. Même des Lidijia, tu vois, moi je me dis que ça peut être des surprises, alors qu'en haut, je sais pas vous, mais moi, pour moi, la demi Axelsen Momota, elle me semble déjà évidente.
Ouais, Marius, est-ce que tu vois Axelsen ou Momota perdre avant la demi au vu des adversaires qu'ils pourront affronter ?
Non, pour moi, c'est vrai que cette partie haute du tableau, je pense que la demi-finale Momota-Axelsen est inévitable. Je vois mal qui pourrait aller les inquiéter. À suivre Jonathan Christie peut-être sur un quart de finale contre Axelsen, mais voilà, Axelsen il a montré quand même sur les années 2020-2021 qu'il était vraiment très costaud, donc voilà, je pense que la demi Momota Axelsen est inévitable.
Et voilà, et en bas, donc vous l'avez dit, je pense que Shu Tianshen ne doit pas être particulièrement heureux de voir qu'il aura potentiellement Chen Long à jouer en quart. Là, je vais vous poser chacun une question. Est-ce que vous pouvez me dire, je vais commencer par toi, Benoît, votre favori, là je parle de la victoire finale, et éventuellement, c'est peut-être le même d'ailleurs, un joueur surprise qu'on n'attendait pas trop et qui pourrait potentiellement sortir du lot alors qu'il n'était pas favori. Benoît, est-ce que tu peux nous donner ton favori d'abord ?
Mon favori, c'est Kento Momota, sans grande surprise, mais je pense qu'il y aura deux médaillés dans cette partie de tableau. Je pense que peu importe qui perd la demi, je ne le vois pas perdre le match pour la troisième place. Mais moi je dirais quand même, je resterai sur Momota. Maintenant, une surprise pour moi, s'il peut y en avoir une, alors vous allez peut-être me dire que c'est pas une surprise, mais ça peut être Chen Long. Alors oui, il est champion olympique en titre, mais Chen Long, je crois qu'il a gagné un ou deux tournois depuis son titre olympique en 2016, il y a 5 ans. Donc pour moi, ça peut être une vraie surprise et on peut le retrouver en demi-finale.
Ouais, il a notamment gagné deux fois les IFB et un ou deux autres tournois, je crois, effectivement, le bilan est pas lourd, donc c'est vrai qu'il sera peut-être moins attendu que ce qu'on aurait pu penser. Marius, toi, est-ce que ton favori, c'est Kento Momota ou tu vois quelqu'un d'autre s'imposer au jeu cette année ?
Alors, je vais prendre un petit risque, je vais dire Axelsen, même s'il hérite de Momota en demi. Ce qu'il a montré sur cette année 2021, c'est quand même très fort. Il a perdu que deux matchs, je crois, et il a battu. Alors certes, il n'a pas battu Momota ni les joueurs chinois, mais il a battu tous les autres et parfois assez facilement. Et voilà, j'ai l'impression qu'il est quand même plus sûr, plus en confiance que à certains moments par le passé. Et sur une demi-finale contre Momota, même si psychologiquement, c'est sûr que Momota a largement le dessus. Je pense que justement, le fait de pas être favori et de ne pas forcément être attendu en finale, peut jouer pour lui. Et puis s'il parvient à atteindre la finale, je pense que voilà, que ce soit contre Xu Tianchen ou même Chen Long, il pourrait quand même gagner la finale. Après, pour la surprise entre guillemets, parce que comme pour Benoît, c'est un joueur qui est parmi les tout meilleurs, je dirais Anthony Ginting. Alors c'est peut-être le cœur qui parle un peu parce que j'aime bien ce joueur, mais je trouve que c'est un joueur qui est capable d'inquiéter tout le monde. D'ailleurs, ça doit être le seul qui a un bilan positif contre Chen Long. Je pense qu'il est capable de battre Anton Sen, il est capable de battre Chen Long, Xu Tianchen. Donc après, il a attention un huitième de finale contre Tsuneyama qu'il a perdu. Il a perdu contre le Japonais deux fois, donc attention. Mais j'aimerais bien que Ginting, sur un tournoi, soit capable d'enchaîner les victoires et d'aller pourquoi pas en finale ou du moins chercher une médaille.
Ouais, je rebondis sur ce que tu disais, pardon Benoît, sur Ginting. Ce que je trouve impressionnant avec lui, c'est que il arrive à bouger des joueurs comme Chen Long par exemple, où tu l'as dit, il a un bilan positif, mais il arrive aussi à battre Momota, il l'a fait deux fois je crois. Donc c'est un joueur qui arrive à s'adapter à plusieurs styles de jeu et je trouve ça vraiment intéressant. Vas-y Benoît, qu'est-ce que tu voulais ajouter ?
Non, je voulais juste préciser que en fait, moi ce qui me fait Axel Sen à l'instant T et me semble beaucoup plus fort que Momota évidemment, mais en fait, dès que Momota est là, Axel Sen, il se liquéfie. Et peu importe la confiance, j'ai l'impression qu'il a pu acquérir avant. J'ai l'impression que dès que Momota revient, tout change. Alors j'espère que justement, ça va changer pour les JO. Et que Axel Sen sera capable de se dire, Momota n'était pas là, mais enfin, j'ai quand même mis tout le monde à l'amende pendant un an et demi. Et voilà, moi c'est ça un peu qui m'inquiète. Et je voulais du coup en profiter pour te lancer Ewan et te poser la question à toi aussi, parce que j'ai bien envie de savoir qui tu nous as mis vainqueur.
Bah moi c'est pas très original, mais je vais rejoindre Marius en disant Axel Sen. Au début, je me suis dit en voyant le tirage qu'il avait dû pas être très content de tirer Momota dans sa partie de tableau. Et finalement, je me dis que c'est peut-être limite mieux de le jouer en demi qu'en finale, parce qu'il aura peut-être un peu moins la pression de l'événement. Et après, une fois, imaginons qu'il passe Momota. Je pense que je le vois pas avoir trop de problèmes contre un Xu Tianchen ou un Chen Long. Par contre, moi, j'aurais un peu plus peur si c'est Anton Sen, parce qu'Anton Sen, c'est un joueur qui le connaît très bien et qui arrive à le faire déjouer. Donc voilà, je dirais Axel Sen, mais forcément, contre Momota, il sera pas favori. Et quand tu perds 14-1 contre aux confrontations directes, t'es forcément pas favori. Donc voilà. En surprise, je vois bien Anton Sen, même si c'est pas vraiment une surprise, je vois bien Anton Sen nous faire une finale et sortir éventuellement tous ceux dans sa partie de tableau comme un Chen Long ou un Xu Tianchen. Je pense que Anton Sen, il est dans une forme qui est assez exceptionnelle, et comme Marius le disait tout à l'heure, pour lui justement, il a eu la chance de jouer beaucoup, donc je pense que ça, il a des repères pour le coup, donc je trouve ça intéressant en tout cas.
Non, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'Anton Sen, c'est vrai que c'est peut-être un des seuls dans cette partie basse de tableau qui aura un huitième de finale relativement simple face à Wang Shaowen, enfin en tout cas où il sera largement favori. Et ouais, c'est vrai que ça peut être une surprise, et potentiellement dans la finale que vous voyez, s'il y a Anton Sen face à Axel Sen, je pense que c'est un des joueurs qui peut le faire déjouer le plus dans cette partie basse, parce qu'ils se connaissent et qu'Anton Sen est capable de le rentrer dans la tête.
Et pour revenir sur ce que tu disais, Ewan, c'est vrai que j'y ai pensé aussi. Je me dis peut-être pour Axel Sen, c'est mieux de jouer Momota en demi-finale, non seulement pour la pression, mais aussi parce que Momota, il sera directement en quart de finale. Et puis le quart de finale contre Inka Long, donc certes, c'est un bon joueur, mais ce n'est pas vraiment le gros test contre un gros joueur dont tu as besoin peut-être Momota. Donc voilà, je me dis qu'un premier gros match pour Momota en demi-finale, ce sera pas forcément facile à aborder non plus.
Ouais, c'est vrai que Momota, il a personne du top, on va dire, 6 à jouer, quoi. Il aura pas de match contre un Christie ou un Ginting ou un Anton Sen pour se mettre dedans. Alors que, comme tu le dis, Axel Sen, il sortira potentiellement d'un match contre Christie ou contre Shiyuki, d'un gros match. Donc lui, il sera bien dans sa compétition, quoi. C'est vrai que Momota, il n'aura pas tant de temps que ça pour se préparer finalement, donc c'est vrai que c'est très intéressant, et c'est un match, j'imagine, comme tout le monde, que j'ai très hâte de voir. De toute façon, dans ce tableau, il va y avoir beaucoup à partir des quarts, ça va être assez monstrueux tous les matchs qu'on aura. Est-ce que l'un d'entre vous a quelque chose à rajouter sur ce tableau? Marius, est-ce que tu voulais dire quelque chose encore?
Non, pas forcément. Après, j'ai hâte de voir le déroulement de la partie basse du tableau, parce qu'elle est extrêmement dense, et j'ai l'impression tout le monde peut battre tout le monde, à part peut-être Wang Charwen qui jouera Anton Sen en 8e. Mais sinon, vraiment hâte de voir comment ça va se passer et qui va sortir vainqueur de cette partie-là.
Ouais, ouais, je suis d'accord que c'est plus serré et c'est limite, j'ai aussi envie plus de voir cette partie basse de tableau. Moi, personnellement, j'aime beaucoup Chen Long, mais s'il veut éventuellement aller au bout ou au moins aller en finale, c'est un vrai parcours du combattant parce que du coup, il jouerait Li Zijia qui est, il me semble, le dernier joueur qu'il a dû jouer sur le circuit puisqu'il avait perdu contre lui au All England 2020. Donc ouais, gros parcours du combattant en bas. Benoît, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce tableau ?
Non, exactement comme Marius, moi c'est cette partie basse qui clairement me fait kiffer parce que à part Wang Charwen, comme tu l'as dit, je pense qu'en fait tout ce qu'on a annoncé, clairement potentiellement on peut se retrouver avec un Li Zijia en finale, alors que dans la partie haute je vois beaucoup moins de surprises, mais dans cette partie basse ouais potentiellement t'as 5 joueurs qui peuvent se retrouver en finale olympique alors que partie haute, ouais, on a Momota et Axel Sen et le reste.
Ouais, ça va clairement être très intéressant. Je pense qu'on peut conclure cet épisode. Merci beaucoup, Marius, d'être venu en parler avec nous. C'était très, très sympa.
Merci à vous, c'était un plaisir.
Et merci, Benoît, comme d'habitude, d'avoir participé et aussi d'avoir préparé les sorties de poule, un travail de longue haleine que tu as encore fourni là.
Ouais, merci les gars, c'était très cool. Et puis merci pour votre écoute.
Je rappelle pas puisqu'on l'a pas dit du coup que c'est notre dernier débrief des 5 tableaux. Les 4 autres tableaux, donc simple dame, double homme et double mix sont déjà disponibles, donc vous pouvez aller les écouter. On a fait les mêmes genres de prédictions pour les poules et éventuellement les sorties de poules en s'attardant sur les Français. Et donc je rappelle que les JO commencent dans quelques jours puisque les JO commencent le 24 et le BAD commence donc le 24. Donc on sera présent pendant les JO, on fera des lives, le but ce serait de les faire tous les jours, on vous préviendra évidemment sur les réseaux sociaux, mais de débriefer en fin d'après-midi les matchs du jour, puisqu'il y en aura beaucoup, et en plus avec le décalage horaire, il y en aura surtout le matin et en début d'après-midi. Donc soyez présents, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et sur Instagram, c'est là que vous serez au courant. Merci pour votre écoute, et donc maintenant on se retrouve pour le début des JO le 24, d'ici là portez-vous bien. À la prochaine.绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给手中，绝不等候。你是否在倾听？